Lizzie présente Ce lien entre nous de David Joy. Lu par Michelangelo Marchese. Pour mon père, qui a emprunté le chemin usé. Il y a un plaisir, oui, à être fou, que seuls les fous connaissent. John Dryden. Chapitre 1. Darl Moody n'avait strictement rien à foutre de ce que l'État considérait comme du braconnage. Selon lui, quiconque réduisait la saison de la chasse à 2 semaines sans allouer une seule journée à la biche se fichait qu'on meure de faim. La viande dans le congélateur était une viande qui n'avait pas besoin d'être achetée et payée, et ça finissait par signifier beaucoup quand le boulot se faisait rare chaque hiver. Alors, même s'il avait presque 2 mois d'avance, il irait chasser. Le cerf que Darl voyait passer de la ferme des Buchanan au bois de Coon Coward depuis 2 ans avait un rocking chair sur la tête et un cou aussi épais qu'un tronc d'arbre. Coon refusait de laisser quiconque poser le pied sur ses terres à cause du ginseng qu'il y cachait, mais il n'était pas en ville. Le vieil homme était parti enterrer sa sœur dans la plaine et ne reviendrait pas avant 1 semaine. Les signes étaient nombreux dans le vallon. Les frottements qui avaient arraché l'écorce des cèdres et des arbrisseaux, des débris partout sur le sol aux endroits où les fangs grattaient quand leur instinct leur disait de le faire sans qu'ils comprennent pourquoi. Un cerf adulte savait exactement ce qu'il faisait quand il s'acharnait sur le sol comme s'il creusait une ligne avec ses sabots. Mais les jeunes agissaient n'importe comment. Ils grattaient partout, tentant de participer à une conversation qu'ils étaient trop inexpérimentés pour comprendre. Darl accrocha sa plateforme d'affût autour d'un chêne blackjack dont les premières branches commençaient à poindre à 6 mètres de hauteur. Il grimpa sur son poste d'observation et examina la bande de terre sur laquelle l'automne faisait apparaître des taches dorées depuis les montagnes dans la lueur de l'après-midi. Une vague de froid inhabituelle pour la saison, après l'un des étés les plus secs que le comté ait jamais vu, avait fait arriver l'automne avec 1 mois d'avance. C'était la dernière semaine de septembre, mais les crêtes étaient déjà dépouillées. Dans la vallée, les arbres arboraient des nuances rouges et oranges qui flamboyaient comme des braises. Les glands tombaient comme des gouttes de pluie. Il commençait à geler la nuit, et d'ici quelques semaines, les premiers souffles de l'hiver réduiraient les montagnes à leur ossature grise. Darl but une gorgée au goulot de la flasque de whisky qu'il trimbalait dans la grosse poche de son pantalon de camouflage, ôta sa casquette de baseball et repoussa la sueur de son front vers l'implantation en V de ses cheveux clairsemés coupés à ras. Il gratta l'épaisse barbe sur son menton et tendit l'oreille à l'affût du moindre signe de mouvement, même si, comme au cours des 2 derniers soirs, il n'avait toujours rien vu ni entendu, hormis des écureuils. Dès que le soleil disparut derrière le versant ouest, le bois fut plongé dans l'obscurité, et la nuit ne tarderait plus à tomber. Pourtant, il resterait, car il était impossible de dire quand ce cerf se montrerait, et dans le noir complet, il retrouverait son chemin à la lueur de sa lampe frontale. Quelque part sur le flanc de la colline, une brindille craqua, et ce son lui traversa le corps comme un courant électrique. Son cœur s'emballa et ses paumes devinrent moites, ses yeux écarquillés et blancs. Des feuilles séchées bruissèrent sous des pas, et derrière les branches échevelées d'un sapin du Canada mort, il distingua un léger mouvement, mais à une telle distance et avec si peu de lumière, il était impossible de discerner ce qui bougeait. À travers la lunette de son fusil, il repéra une silhouette à 4 pattes, une bête grise et proche du sol. La Centerpoint 3.9 50 mm ne valait rien dans une telle pénombre, mais c'était tout ce que Darl avait les moyens de se payer, et c'était donc tout ce qu'il avait. Tout en réglant la lunette sur la plus grande distance, il se joua le tir dans sa tête. À 200 mètres, l'animal remplissait un peu moins d'un quart de l'oculaire. Il bascula le verrou et le tira juste assez pour s'assurer qu'une cartouche était dans la chambre, puis il replaça le verrou et défit la sécurité. Un sanglier fouillait le sol de la colline à la recherche d'un repas. Chaque année, ces animaux montaient de plus en plus vers le nord de la Caroline du Sud, commençant par atteindre Valhalla 10 ans plus tôt et infestant désormais les fermes du comté de Jackson. Il y avait une saison pour la chasse aux sangliers partout dans l'État à cause des dégâts qu'ils provoquaient. Plus tôt cette année-là, un père et son fils du comté de Caswell étaient en train de chasser sur des terres privées entre Brevard et Toxaway quand le gamin avait effrayé tout un troupeau qui avait détalé d'un fourré et le père avait abattu une bestiole de 320 kilos. C'était juste de l'autre côté de la crête, dans le comté de Transylvania. Le sanglier pesait 260 kilos éviscérés et ils avaient rapporté à la maison pour plus de 70 kilos rien qu'en saucisses. Imaginez combien ça aurait coûté à l'épicerie. Depuis toujours, le vide se faisait dans sa tête avant la mise à mort. C'était difficile à expliquer, mais c'était le sentiment qu'il avait à cet instant tandis qu'il calait le fusil contre le tronc de l'arbre pour mieux viser. Son esprit n'était plus qu'instinct. Un entrelac de broussailles lui obstruait la vue, mais il savait que la corlocte le transpercerait sans problème. Il tenta d'agrandir l'image en faisant glisser sa joue le long de la crosse. Cependant, la lunette bon marché offrait peu de possibilités. Lorsque son champ de vision fut élargi, il tourna la molette pour y voir le plus clair possible. Mais rien n'était jamais totalement net lorsqu'il positionnait la mire sur les épaules de la bête. Il se concentra alors sur son pouls. Respire lentement. Compte tes respirations. Appuie entre deux battements de cœur. Compte à partir de 5 et tire. L'image trembla tandis qu'il effectuait son compte à rebours. 3, 2, appuie. Le fusil lui cogna l'épaule. Et la détonation se propagea par vagues, atteignant tout autour de lui, puis revenant par fragments tandis qu'elle se répercutait contre les montagnes. Il regarda en direction de sa cible. L'animal était abattu. « Je l'ai eu !» prononça Darl. Son corps le picotait et il avait la tête qui tournait. L'adrénaline coulait en lui et lui coupait le souffle. Il était incrédule. « Putain, je l'ai eu !» Darl siffla d'un trait le reste du whisky, cala son fusil sur son épaule et descendit de sa plateforme. Dans moins d'une heure, la lumière aurait disparu. Il savait qu'il devait faire vite. Il aurait à peine le temps de dépouiller le sanglier et de le sortir du bois avant la nuit. Peut-être que Calvin Hooper l'aiderait. Cal avait un chouette palan pour dépouiller les cerfs, et ça valait sacrément mieux que la barre de levage de fortune que Darl avait chez lui. Qu'il s'agisse d'épiler un sanglier ou de lui enlever la peau, c'était beaucoup plus facile avec deux paires de mains qu'avec une seule. Cal ne demanderait rien en échange. Il ne l'avait jamais fait. Dès que Darl aurait placé la bête sur sa camionnette, il irait chez Calvin. « Putain, je l'ai eu !» répéta-t-il. Un petit ruisseau coulait au fond du vallon. Puis il fallait traverser un épais fourré de lauriers avant que le flanc de colline devienne plus abrupt. Darl franchit le fourré en titubant et monta lentement jusqu'à atteindre la saillie où le sanglier était tombé. Il trébucha sur un fil de pêche tendu entre deux cornouillers et deux boîtes de conserve avec des cailloux à l'intérieur produisirent un raffut métallique dans les branches au-dessus. Il se figea et regarda autour de lui. Lorsque sa vision s'ajusta, il vit des hameçons rouillés accrochés à l'arbre à hauteur d'yeux, des pièges destinés aux braconniers. Il les repoussa l'un après l'autre, comme s'il se frayait un chemin au milieu de toiles d'araignée. Et c'est alors qu'il le vit. Pas un sanglier, mais un homme, gisant sur le ventre. Une chemise à imprimer coup de pinceau rendue presque noire par le sang, le pantalon de camouflage du même gris que la chemise. Darl s'approcha, s'agenouilla près des jambes de l'homme et posa la main sur son mollet. Son corps était chaud. Mais il n'y avait pas de mouvement, pas de bruit de respiration. En état de choc absolu, Darl s'avança un peu et vit l'endroit où la balle avait pénétré la cage thoracique de l'homme. Il avait été transpercé de part en part, la balle à pointe creuse s'ouvrant lorsqu'elle était entrée avant de ressortir derrière son épaule droite, réduisant en lambeaux le haut de son bras. Son bras gauche gisait près de son flanc, main ouverte, paume vers le haut. Et Darl vit quelques baies rouges ratatinées en équilibre sur le bout de ses doigts. Il s'aperçut alors qu'il était agenouillé dans une parcelle remplie de ginseng, des plants principalement jeunes à deux feuilles, même si certains étaient bien plus vieux. Il y avait un cartable ouvert sur le sol à côté de l'homme. avec un enchevêtrement de racines maintenues par un élastique à l'intérieur, leurs épaisses radicelles ébouriffées comme des cheveux.